Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour cher Brice.
Bonjour Florian.
Alors pour enrayer la dégradation du climat, Brice, le réchauffement de la température mondiale, devons-nous changer nos modes de vie de manière radicale ?
Renoncer à des éléments de confort que nous avions mis des générations à acquérir, au moment même où le privilège de disposer de ces innovations, longtemps réservées aux heureux habitants de l'hémisphère nord, était justement en train de changer la vie de milliards de personnes au sud ? Eh bien, bien des penseurs et des experts se posent la question, mais les réponses sont loin d'être aussi homogènes qu'on voudrait parfois le faire croire. Ainsi, Ramesh Thakur, l'ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies, vient de mettre en ligne un texte accusant une certaine élite du pouvoir et de l'argent d'accumuler, je cite, « les gestes vides accomplis en public afin de véhiculer les attitudes socialement approuvées sans aucun risque ni sacrifice ». Il les appelle « the progressive phonies », les progressistes bidons. Et sa tête de turc favorite est le premier ministre canadien Justin Trudeau. Le darling de la gauche mondiale est, dit-il, un hypocrite doublé d'un incompétent multipliant les faux pas diplomatiques. Mais le prince Harry en prend aussi pour son grade, lui qui jet-set à travers le monde pour mettre en garde les gens contre le réchauffement climatique. Or, poursuit Ramesh Thakur, Harry est loin d'être isolé dans son cas. Quand il a voyagé vers la Sicile en juillet pour un rassemblement du climat organisé par Google, il ne fut qu'un parmi des délégués dont 114 avaient fait le voyage dans leur jet privé. Et il y avait aussi toute une flotte de yachts, pas beaucoup plus économes en énergie. Comme l'a tweeté alors le Premier ministre d'Alberta, Jason Kenney, à nouveau, un étalage de méga-yachts, de jets privés et de consommation ostentatoire, alors que des milliards de gens souffrent par manque d'énergie. L'hypocrisie de ces ultra-riches donneurs de leçons de sobriété exaspère les gens. Et comme l'écrit sur le site Aero Mats Normo Arnestad, un jeune universitaire norvégien, au nom du slogan « Pensée globale, agir local », nous sommes encouragés à changer nos habitudes de consommation pour sauver la planète. Cela va du plus évident, utiliser les modes de transport les moins polluants, au plus cocasse, utiliser ses propres excréments comme engrais du jardin.
Alors Brice, ça part de bonnes intentions, mais cela peut-il être efficace ?
Eh ben non, selon notre universitaire norvégien. La conso durable est un mythe consolateur et voilà pourquoi. 1. Croire que les consommateurs qui sont des milliards peuvent avoir un effet de masse est une illusion. Plus on est nombreux à croire quelque chose nécessaire et plus on est tenté de compter sur les autres. C'est ce que les économistes appellent depuis longtemps la tragédie des communs et qu'Aristote avait énoncé il y a 2300 ans. Ce qui est commun à tous fait l'objet de moins de soins car les humains s'intéressent davantage à ce qui est à eux. Et c'est la raison pour laquelle les régimes communistes ont dévasté leur environnement encore bien davantage que les pays capitalistes avides de profits. 2. En raison d'un biais psychologique connu sous le nom de « sensibilité à l'étendue ». Lorsque l'ampleur du problème est perçue comme trop grande, un sentiment d'insensibilité vient s'interposer en ce que nous croyons juste et ce que nous sommes réellement disposés à faire. Nous baissons les bras. 3. À cause du piège de l'empathie. Notre pitié va de manière quasi exclusive aux êtres vivants qui nous émeuvent. Les bébés pandas et dauphins plutôt que les petits des alligators. Or, le problème climatique prend rarement des formes susceptibles de nous émouvoir. L'extravagante surexploitation des océans ne mobilise guère, alors que c'est sans doute le problème numéro 1. 4. Une question de désirabilité sociale. Les humains se rassurent en se conformant aux normes sociales en vigueur. Et ces temps-ci, la consommation responsable permet de bénéficier d'un sentiment de reconnaissance sociale. Et ceux qui n'ont pas les moyens de ce type de consommation souffrent d'une perte de standing social. Ils sont souvent obèses et donc considérés comme à la fois pauvres et fautifs. Or cela attise la colère de personnes qui se sentent incapables de suivre ce qui s'apparente souvent à des mouvements de mode. Ainsi, jusqu'en 2014, il était considéré comme écologique de manger des fruits de mer. Mais depuis qu'on a réalisé que la culture en ferme marine, des scampis et autres gambas dégradaient les forêts de mangroves, c'est devenu très mal vu. Les gens simples sont, je cite, agacé par la démagogie morale démonstrative des activistes tendance. Alors, vous me direz, quelles sont alors les solutions, si c'est pas du côté de la consommation? Non, les solutions efficaces, selon notre universitaire norvégien d'aujourd'hui, sont de la compétence des dirigeants politiques. C'est à eux qu'il revient d'édicter et de faire respecter par les entreprises des normes compatibles avec la préservation de l'environnement. Mais tenir le consommateur individuel pour responsable est, je cite, un dangereux sophisme.